Bonsoir Serge Bimpage.
Mais bonsoir.
C'est un plaisir de vous avoir avec nous. On ne va pas parler de journalisme ce soir. Vous qui avez travaillé dans de nombreux, journaux, on va dire ça comme ça, hein, et qui avez beaucoup voyagé aussi. On va parler de décrochage. Mais avant de parler de L'île pommelée de Mouton Blanc paru aux éditions Slatkin, est-ce que, comme journaliste, comme écrivain, parfois vous décrochez, parfois vous vous dites stop, là, j'écoute plus du tout ce qui se passe dans le monde, je m'isole, je pense pas à écrire, je pense pas à faire un éditorial. Est-ce que ça vous arrive ou jamais?
Écoutez, ça m'arrive depuis le tout début. D'abord, un grand merci de votre invitation, c'est très gentil à vous. Et j'aime beaucoup votre émission que j'écoute avec grand plaisir quand il m'arrive de rentrer le soir en écoutant la radio dans la voiture, par exemple. Pour répondre à votre question, j'ai l'impression d'avoir commencé le métier de journaliste en me méfiant du métier.
Joli,
j'y suis entré un peu curieusement. J'étais assistant à l'UNI et puis j'écrivais pour divers journaux comme ça, des piges, des articles. Et puis un ami m'a dit, il y a un poste au Journal de Genève au concours, tu devrais y aller. Et c'est parti un petit peu comme ça. Et aussi parce que je me disais que le journalisme me permettrait de travailler un peu mon écriture. Mais dès que j'y suis entré, ma nature me pousse à des intérêts... d'aller regarder au-delà des apparences, comme ça, c'est un peu prétentieusement dit, mais par exemple, il y avait eu, au bout de quelques mois que je travaillais au Journal de Genève, une affichette du journal La Suisse qui parlait de Kurdes, de Turcs alcoolisés dans un restaurant, et j'avais senti que c'était pas très juste. On m'avait alerté pour m'informer que c'était en réalité un Kurde désespéré qui s'était allumé le feu avec de l'essence pour parce qu'il n'arrivait pas à rester en Suisse et il ne pouvait pas non plus retourner dans son pays. Et j'avais fait un livre là-dessus, j'ai fait une enquête. Et, oui. Alors, j'ai toujours eu cette impression qu'il faut, se méfier des apparences. Et le journalisme est trop souvent restreint à l'apparence. Alors, je ne crache pas dans la soupe du tout, hein, j'ai adoré ce métier. Mais c'est pour répondre à votre question.
Oui, enfin, pour celles et ceux qui vous ont lu, on sait que parfois vous avez réussi à vous décaler un petit peu, hein, peut-être décrocher aussi, en écrivant par exemple La peau des grenouilles vertes sur l'enlèvement de la fille de Frédéric Dard, qui est un livre absolument somptueux, qui nous fait plonger dans cet univers. Et puis alors, vous avez écrit beaucoup sur Henri Dunant aussi. Bon, on va pas faire de débat sur Henri Dunant ce soir, mais écrire sur les autres, c'était aussi une façon peut-être de décrocher de vous-même d'une certaine façon.
J'ai peur que ce soit le contraire, dans le sens où c'est fou ce qu'on parle de soi quand on parle des autres, quoi. on parle jamais que de soi, vraiment. Là, le portrait de cette île pommelée de Mouton Blanc que je viens de publier, c'est voilà. Je vois bien que je voulais faire le portrait de cette île. Mais je vois bien aussi que sans m'en rendre compte, j'ai un peu fait le mien en même temps, quoi. Vous voyez.
Ouais. Vous aviez besoin de ce point de fuite, vous aussi?
Ben, oui. C'est vrai que besoin d'un point de fuite, c'est le besoin de décrocher, c'est d'avoir une autre perspective pour pouvoir avancer. Regarder les choses autrement, c'est la définition même de toute démarche artistique. Mais ça peut l'être aussi de toute démarche de vie. Je pense que changer d'endroit géographique, ça permet vraiment beaucoup de choses. Ça permet alors d'aller loin des méchants. Et puis, on est toujours un peu étonné de... Je vois ça avec l'île pommelée de Mouton Blanc, c'est que finalement je me suis rendu compte que en essayant de décrocher un peu, finalement, vous avez quand même toujours rendez-vous avec vous-même. Mais ce qui est agréable, c'est que vous finissez par vous regarder d'un autre point de vue, littéralement dit. Et ça, c'est bien, ça fait du bien.
Dans votre livre, il y a un jeune homme qui vous bouscule à un moment, hein, enfin qui bouscule le héros de votre livre, pardon. Vous voyez, je me laisse avoir aussi. Hein. Il a l'air pressé et il porte une inscription sur son t-shirt, « Je lâche tout
mmh. ». Et
ouais. Si, Molotov, Molototo. Et vous dites, ça, c'est une sacrée responsabilité de tout lâcher à un moment donné quand même.
Oui, ça dépend évidemment dans quel sens on le dit exactement, mais il s'agit pas de tout lâcher. J'avais un ami qui ne jurait que par la rupture. Il disait, tout grand homme doit vivre une rupture absolue. Ça avait été un différent entre lui et moi, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ce point de vue. Et je ne pense pas que décrocher signifie tout lâcher. Hein. C'est suicidaire, mais décrocher dans le bon sens... C'est vrai que ça veut dire prendre du recul. Hein. L'humour qu'on peut pratiquer, qui fait tellement de bien dans la vie, consiste à se détacher un peu de soi, c'est relativiser un peu l'importance qu'on se donne, c'est ce qui permet de rire de soi, et par conséquent, d'entraîner celui des autres.
Alors, dans ce livre, votre héros, il est venu chercher à Lipari un point de fuite, hein, j'ai l'évoqué tout à l'heure, mais aussi une autre perspective, sans se douter de ce qu'il adviendrait, dit-il, effectivement, en restaurant une ruine qui ne devait pas manger de pain, sans doute n'ai-je pas voulu me souvenir des mots de l'ami Bouvier, nous en étions au troisième whisky dans son antre qui lui servait de bureau quand il avait évoqué le charme négatif de la mer pommelée des moutons blancs. Mais... sans revenir nécessairement à Bouvier, quoi, qui était un très grand voyageur, évidemment. Est-ce qu'à un moment donné, de chercher un point de fuite, c'est vraiment chercher une autre perspective ? Et je dirais de décrocher, parce que dans ce livre, on voit bien quel est le décrochage. Hein. Il est à la fois par moments très entier, parfois très partiel aussi, mais est-ce que le décrochage, c'est chercher une autre perspective pour vous ?
Oui, mais c'est très exactement ça. Il s'agit de s'éloigner de soi, d'une certaine façon. Le soi dans le sens où c'est ses habitudes, c'est son lieu de vie, son lieu de travail éventuellement. Quand vous vivez depuis un certain temps dans le même endroit, vous ne le voyez plus. C'est ça, je crois. Il s'agit de garder les yeux ouverts, comme dirait Marguerite Yourcenar. Il s'agit de se rendre compte que on peut vivre avec sans se rendre compte qu'on n'a jamais mis d'abat-jour à une ampoule dans son hall à force de ne pas l'avoir fait.
Très jolie image.
Et puis c'est ça, quoi, les amis qui viennent vous dire, mais dis donc, tu trouves pas que tu devrais... Ah, puis ils vous ouvrent les yeux. Que vous avez, ouais. Alors, moi, je crois que c'est, pour moi, le décrochage, c'est ça. C'est s'éloigner de soi, de ses habitudes, des choses qu'on finit par plus voir et tout. Et, on finit par regarder les choses autrement. Je crois qu'en voyant vivre les autres autrement aussi, ça fait beaucoup de bien, hein, dans ce sens-là. Et il y a peut-être encore un élément, c'est que en décrochant, c'est-à-dire en voyageant, mais quand je dis voyager, ça ne veut pas nécessairement parler d'éloignement géographique, hein, ça peut être un éloignement même tout proche, même dans la rue, même je sais pas, on peut imaginer une femme qui vit seule et qui n'a jamais osé aller boire un verre sur un une terrasse parce que ça se fait pas, ou enfin vous voyez, ou dans un bistrot, ou puis qu'il le fait, et tout d'un coup ça peut provoquer quelque chose de différent. On n'a jamais été dans un musée parce que c'est intimidant, ou bien on n'a jamais pris le temps, ça se nous arrivait à tous par exemple, de se promener dans sa propre ville. On n'a jamais le temps de le faire, mais tout d'un coup vous le faites. Alors, soit parce que vous le recherchez, soit parce que par hasard, il se trouve que vous avez 20 minutes à perdre parce que vous êtes en avance chez le médecin, puis tout d'un coup, vous vivez les choses différemment. J'appelle ça décrocher, voire autrement.
Serge, une dernière question. Est-ce que un jour, vous partirez sur une île comme l'île de Lipari pour rénover une ruine?
Ça, c'est la plus belle des questions. Je l'ai fait. Ce livre est un récit. On parlait de Bouvier. Si on prend, par exemple, la plupart de ses livres, hein, le journal d'Aran et autres lieux, par exemple, c'est des récits. C'est pas des romans. Tout n'est pas inventé. C'est raconter ce qu'on vit, en quelque sorte. Oui, j'ai retapé une ruine. Je l'ai fait. C'est pour ça que je peux en parler de manière relativement informée.
Oui, c'est-à-dire que vous avez réussi à la retaper finalement.
Oui, tout à fait. Non, alors c'est un joli petit endroit à 50 mètres de l'eau, c'est un vrai bonheur, franchement. Et en même temps, c'est une île terrible que celle de Lipari, qui est à la fois merveilleusement belle et en même temps très difficile à vivre. Il y a les deux à la fois, comme avec les gens, comme avec la vie. C'est-à-dire que, par exemple, il y a 7 vents différents qui peuvent être assez violents et tout d'un coup, d'un jour à l'autre, c'est une tornade. Il y a le volcan qui n'est pas très très loin et qui peut se mettre à trembler et vous ressentez les scories qui arrivent jusque vers vous. Vous pouvez avoir des incendies de forêt, vous pouvez avoir des gens extrêmement désagréables dans leur indolence et dans leur farniente. Et tout ça fait que vous arrivez un peu en pleurant en arrivant, et puis vous pleurez quand même en repartant parce que c'est tellement beau. Et vous vous rendez compte que les gens sont fantastiques, et s'ils ont raison d'être indolents, c'est peut-être qu'ils ont raison.
Alors je vais vous lire un ou deux messages qu'on a reçus en conclusion, parce que comme ça je vous écoutais, je ne suis pas allé sur les WhatsApp, et maintenant je vois qu'il y a plein de messages qui sont arrivés au 076-318. 9649. Donc, bien sûr, ils sont inspirés par votre témoignage. Une petite question, je pense que c'est Christian qui vous pose et se pose la question. Il dit, et si quand on s'éloigne de soi, le soi revient à soi?
Oui, joli, oui, évidemment, il s'agit pas trop s'éloigner de soi, quoi. Il y a un danger de trop s'en éloigner en le faisant de manière artificielle. Par exemple, avec des paradis artificiels, avec de quoi s'hypnotiser ou s'alcooliser ou se droguer ou s'illusionner. Alors évidemment, il faut rester un petit peu prudent, il faut jamais se perdre de vue.
C'est une belle réponse. Et puis, il y a quelqu'un qui dit aussi « Bonsoir, les masques sociaux nous encouragent à décrocher ainsi que les diagnostics. » Inspiré aussi par ce que vous venez de nous raconter.
Oui, les étiquettes, les diagnostics, évidemment que l'authenticité, c'est certainement dans les relations sociales ce qu'il y a de plus beau, de plus rare et de plus difficile, quoi. Ne pas juger, tâcher d'être soi, ne pas mettre de masque. Évidemment que c'est toujours un petit peu difficile et dangereux. On a tendance à se protéger. De la même façon que les diagnostics, les étiquettes servent à se protéger, hein, à protéger un professionnel, par exemple, ou des gens qui jugent les autres, etc., quoi. C'est beau d'être franc et d'être intègre il faut cultiver ça.
Et alors, ça sera ma dernière question, mais c'est la mienne, Serge Bainpage. Après L'île pommelée de moutons blancs, paru aux éditions Slatkin, et la rénovation d'une ruine sur l'île de Lipari, vous avez d'autres projets de ce type ?
Je sais pas. De ce type, je sais pas. Enfin, j'ai un projet où j'aimerais travailler l'idée que... l'intuition, les sens sont très importants dans le développement des gens, dans la vie, et que tout ça, ça remonte à la prime enfance. Et que, dans le fond, contrairement à ce que dit la Bible, me semble-t-il, on ne peut pas dire que avant était le verbe. Je pense qu'avant le verbe, il y a les sens, les sensations qui forgent très fortement la personnalité de quelqu'un. C'est un petit peu paradoxal puisque j'écris, mais je vois que l'écriture de plus en plus essaye de reproduire des images, des sensations, et alors parfois on y parvient avec plus ou moins de bonheur. Mais on perd beaucoup de ça, on perd beaucoup de l'enfance et je vais tenter de la retrouver un peu.
Eh bien, n'hésitez pas à écouter La Ligne de cœur comme vous le faites, parce qu'on a souvent des témoignages de gens qui nous disent cela. Évidemment, avant le verbe, il y a tout ce qu'on a pu vivre dans l'enfance qui peut avoir beaucoup d'influence. Merci beaucoup, merci infiniment.
Merci beaucoup de votre invitation et bravo
à bientôt,
pour votre
émission. Bonne nuit, merci. Au revoir.
Merci.